Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 4, on parle d'épuisement professionnel ou de burn-out. Pour cela, j'ai invité Camille Lin, qui est spécialiste en prévention des risques psychosociaux et consultante en santé et sécurité au travail. Elle est aussi formatrice à LinkedIn Learning, la plateforme de formation gratuite de LinkedIn. Alors, pour l'introduire, passionnée par l'humain et le monde qui l'entoure, Camille dédie sa carrière à l'accompagnement de l'individu et du collectif. Ayant une double maîtrise en direction des ressources humaines et en changement organisationnel, elle met ses compétences au profit des entreprises qui souhaitent mettre l'humain au cœur de leur stratégie. Par son expérience en formation, elle accompagne les individus sur des sujets tels que le développement d'une stratégie salariale, la transformation digitale pour les ressources humaines, les fondements RH et met l'accent aujourd'hui sur la prévention et la gestion des risques psychosociaux au travail. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, je suis avec Camille Lin aujourd'hui. Salut Camille, comment ça va?
Bonjour Adia, ça va très très bien, merci. Et toi?
Ben écoute, super, merci beaucoup. Puis je suis très ravie de t'avoir pour cet épisode parce que je pense que tu es la spécialiste pour parler de ça. Honnêtement, dans cet épisode, moi, je m'y connais pas très bien, donc ça va aller. C'est toi la spécialiste, c'est toi la professionnelle et je vais apprendre beaucoup, beaucoup en fait.
Donc, oui, c'est ça, tu vas pouvoir me poser tout plein de questions, toutes les choses qui te passent par la tête. Vas-y.
Oui, oui, en fait, on va essayer de traiter ce sujet d'épuisement professionnel et de santé mentale dans le travail d'une façon un peu classique parce que moi-même, je m'y connais pas très bien personnellement. Donc, moi, tout ce que je sais, par exemple, pour commencer, tout ce que je sais sur l'épuisement professionnel, c'est que de un, je ne sais pas si c'est une maladie ou pas. Donc ça, déjà pour commencer, je ne sais pas, est-ce que c'est classé comme une maladie ou pas, comme une maladie mentale ou un trouble mental temporaire. Ça, je ne sais pas. Et puis deuxièmement, je sais juste que c'est une accumulation de stress sur le temps. Mais à part ça, honnêtement, j'ai aucune idée.
Eh bien, tiens, regarde. On va y aller.
Pour commencer par le commencement, c'est quoi un épuisement professionnel pour toi?
On va commencer par ça exactement, on va établir les bases. Alors, l'épuisement professionnel qu'on entend aussi beaucoup en ce moment, on utilise aussi le terme burn-out. Donc, c'est un état vraiment, mais comme tu as dit, d'épuisement vraiment physique, émotionnel, mental en fait, que des personnes vont ressentir face à des situations mais de travail en fait et qui ont été émotionnellement exigeantes pour eux. Ça, c'est ce que c'est l'épuisement professionnel. Par exemple, ouais, là, avec les exemples, j'aime bien donner des exemples, ça, c'est quelque chose de plus concret. Imaginons que tu as un travailleur, donc il va travailler sur plein de projets. Les projets-là, ils s'accumulent. Et avant, pour livrer un travail de qualité, il lui fallait 4 heures. Maintenant, on va lui dire, non, on veut que tu le fasses en 2 heures. Et lui, du coup, là, il va avoir l'impression de ne jamais accomplir pleinement en fait, son travail, de faire un travail de qualité. Et donc là, c'est un travail qui va être empêché. Tu vois, et ça, déjà, ça peut aussi te conduire au burn-out. Ce qu'il faut savoir sur le burn-out, c'est que c'est un résultat d'adaptation à long terme, en fait, qui a duré longtemps face au stress. Donc, un peu ce que tu as dit tout à l'heure, il y a des choses que tu sais déjà sur le burn-out.
Oui, ouais.
Et les personnes, en fait, qui font un burn-out, elles essaient pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, de s'adapter comme elles peuvent face à une situation stressante. Et elles vont, en fait, consommer toutes leurs ressources physiques, psychiques, jusqu'au moment où l'adaptation, elle n'est plus possible. Et puis là, tu es vraiment en épuisement total.
Mais en fait, là, par exemple, tu as cité une raison, une cause qui va causer un burn-out. Est-ce qu'il y a d'autres causes générales, en fait, mis à part le fait qu'un employé qui va te faire un peu plus de pression pour la productivité, est-ce qu'il y a d'autres causes, par exemple? Moi, je ne sais pas, peut-être un environnement de travail qui n'est pas sain, des collègues toxiques, est-ce que ça aussi, ça va contribuer aussi à un burn-out?
Complètement. Les causes, en fait, elles sont multiples. Donc, tu as la surcharge de travail. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, tu sais. Souvent, on va dire, oui, mais c'est parce que la personne, elle travaille, admettons, de 8h à 23h. Alors, oui, il y a cette surcharge de travail-là quand on parle de burn-out, mais il n'y a pas que ça. Les causes, et ça, c'est vraiment important à le dire, elles sont multiples. Tu as ce que tu viens de dire aussi, toi aussi, mais tu as aussi un faible contrôle sur son travail. Tu as les faibles récompenses, tu as le manque d'équité, tu as les conflits de valeurs, tu as le manque de clarté dans les objectifs. Et toutes ces causes-là, elles peuvent vraiment épuiser les ressources de l'individu. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le burn-out, c'est pas forcément la surcharge de travail. C'est vraiment des causes multiples et des causes qui sont dues à l'organisation, tu vois.
En fait, le responsable, c'est pas juste l'employé et c'est pas aussi juste l'employeur. Donc, ça peut être les deux. Donc, c'est soit peut-être l'employé qui est aussi, qui a peut-être des soucis ailleurs, peut-être qu'il y a un manque de balance dans son travail et vie personnelle, qui peut-être aussi va contribuer à un épuisement genre professionnel, ou c'est l'employeur aussi qui n'a pas peut-être fait sa part, dans le sens, c'est un employeur qui ne va pas vraiment veiller à ce que l'environnement de travail soit clean, soit propre, équilibré, etc. Donc, j'ai l'impression, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est la responsabilité à qui ? Est-ce que c'est mutuel ou bien c'est beaucoup plus l'employeur ou c'est beaucoup plus l'employé ?
Alors, moi, je veux dire déjà, on va faire attention à un truc. C'est de ne pas mettre la faute directement sur l'individu. Et c'est quelque chose... Bah, tu vois, dans ce que tu dis là, c'est comme si qu'il y avait une grosse part où c'était l'individu, où c'était de sa faute à lui, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, un argument que je retrouve, moi, souvent. Et ce que font les employeurs, du coup, c'est se disent, bon, bah attends, s'il n'arrive pas à s'adapter face au stress, je vais lui donner des cours de yoga, je vais lui donner, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il peut lui donner, je vais lui dire d'aller faire de la méditation ou des choses comme ça. Sauf que, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là avec ton employé ? Eh bah, tu vas juste lui donner quelque chose où, pendant une heure, il va pouvoir relaxer, mais après... c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va pas être en épuisement professionnel. Oui, ça va être bien sur le bien-être, pour aider la personne sur le bien-être au travail, mais c'est vraiment pas suffisant et tu t'attaques pas aux causes. Et ce qu'il faut faire par rapport à ça, et là où l'employeur, il a vraiment un rôle à jouer, c'est faire de la prévention sur leur burn-out, sur l'épuisement professionnel, et dire qu'est-ce qui cause ça dans l'organisation de travail. Parce qu'il y a une petite part de l'individu, souvent, les personnes qui sont en épuisement professionnel, ça va être des personnes qui vont être super impliquées dans leur travail. Très souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver, qui n'arrivent pas à faire, un peu comme ce que tu as dit, à faire la différence entre vie perso, vie pro, et qui vont ramener tout le pro aussi dans la maison, les choses comme ça. Mais ce n'est pas que ça. Et puis, j'aime pas dire que c'est que ce type de personnes-là qui vont faire un épuisement professionnel, parce que c'est pas vrai, en fait. C'est vraiment des choses dans l'organisation du travail qui ne vont pas. Donc, tu sais, je vais pas mettre la faute sur « Oh, bah tiens, c'est l'individu. Oh, bah tiens, c'est l'employeur. » C'est pas comme ça, je pense, qu'il faut prendre les choses. C'est plus « Ok, on va regarder dans l'organisation qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les employés soient pas après en épuisement professionnel. »
Oui, mais ça, c'est une très belle nuance, en fait. Genre à savoir, moi, personnellement, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas dit ça pour un jugement, mais j'ai dit ça pour amener la conversation à ce point-là, parce que je pense que c'est ça, la plupart des gens pensent que c'est soit la faute aux employeurs, soit la faute aux employés. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est la faute à personne. Si ça arrive, ça arrive. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de la prévention en amont, dans son organisation, mais aussi sur le plan personnel, aussi avoir une petite hygiène de vie, comme un work-life balance, essayer un petit peu de... je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de conseils et de pratiques à faire pour, pour déstresser, pour enlever tout le stress du travail. Donc, c'est ça ce que j'ai compris. En fait, tu as apporté une très belle nuance que c'est la faute à personne, mais c'est quelque chose qui existe dans la nature et que si ça arrive, c'est que, on doit juste faire avec.
Alors, attends, peut-être que je me suis mal exprimée. C'est bien que tu répètes, parce que je me dis, attention, il y a quelque chose où je me suis peut-être mal exprimée, où je dirais que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça dans la nature. Si ça arrive, c'est parce que l'organisation, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont dans l'organisation qui ne vont pas et qui va amener l'individu à faire un burn-out.
Ok. Donc toi, Camille, tu donnes, en fait, tu mets aucune responsabilité sur l'individu. Pour toi, si un individu qui fait un épuisement professionnel, c'est pas 100% de sa responsabilité. Non, je vais pas dire 100%, mais il n'y a pas une partie où c'est lui le responsable.
C'est ça. C'est pour ça que j'apporte la seule partie où je dirais que c'est lui le responsable, et encore, et j'aime vraiment pas ça. Tu sais, les choses qu'on voit sur le terrain de ce qui se passe, c'est que ce sont les personnes les plus impliquées qui sont à même à faire un burn-out. Mais ce qu'on retrouve surtout, c'est que c'est ce qui se passe dans l'organisation. Tu vois, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'est-ce qui se passe dans l'organisation qui va amener les gens à être en épuisant professionnel.
C'est une très belle approche de voir les choses parce que moi, personnellement, comme je t'ai dit, là, je suis en train d'aborder le sujet avec toutes les croyances que j'ai. Comment est-ce que moi, je me jugerais si je vais tomber dans un épuisement professionnel? Personnellement, je vais mettre toute la faute à moi. Je vais me dire, ah, j'ai pas su gérer, j'ai pas fait un work-life balance, je me suis pas reposée, j'ai pas fait du sport, etc. Donc, je vais tout remettre sur moi-même. Donc, c'est pour ça que je parle comme ça, juste pour démêler un petit peu toutes ces nuances et ces croyances.
Tu fais trop bien.
Ouais, c'est ça. Mais au fond de moi, j'y pense. Mais en parlant avec toi, ça éclaire les gens, puis ça éclaire aussi les gens qui nous écoutent de ne pas trop se culpabiliser si on tombe dans un épuisement professionnel. Voilà.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça. Et j'aime vraiment le point là que tu amènes, parce qu'il y a plein de personnes qui se culpabilisent, qui du coup, ce qui se passe quand tu fais un burn-out, c'est qu'un matin, en tout cas, des personnes que j'ai rencontrées, c'est que le matin, tu essaies de te lever, tu veux aller au travail, tu essaies, mais tu es tellement épuisé, c'est ton corps qui est tellement épuisé que tu n'arrives même plus à te lever. Les choses que tu aimais faire, imaginons que tu es quelqu'un qui aime le sport, ok, et que ton sport préféré, c'est de faire du vélo, on va dire ça. C'est de faire du vélo, tu en fais tout le temps. Et en fait, là, du jour au lendemain, ce qui te passionnait ne te passionne plus. Tu n'arrives même plus à aller au travail, tu n'arrives plus à te lever. Et puis, tu t'en veux. Tu dis, mais en fait, c'est de ma faute si je suis dans cet état-là, c'est parce que j'ai pas réussi à avoir un équilibre, parce que j'ai pas réussi à dire non. Puis tu t'en veux comme ça et puis tu tombes dans une espèce de spirale et t'es encore moins bien. Puis t'essayes après de revenir plus rapidement au boulot, mais en fait quand tu reviens, t'es toujours pas bien et t'es dans une espèce de spirale comme ça. Alors que si là, tu fais de la prévention, tu expliques aux gens réellement c'est quoi l'épuisement professionnel, qu'est-ce qui amène à l'épuisement professionnel, tu libères la parole, ce qui fait que par exemple, tu formes tes managers à voir si ton salarié il n'est pas bien en ce moment, il y a des choses qui ne vont pas et tu libères comme ça la parole, et les gens ils vont moins s'en vouloir, ils vont mieux comprendre pourquoi et puis ils vont pouvoir aussi mieux s'en sortir aussi après, pouvoir revenir dans le travail en sachant que ok, ça va aller. Puis on continue, quoi.
OK. Si on continue de parler sur les indicateurs d'un burn-out, mis à part quand tu te lèves le matin tu te sens que tu es super fatigué et que tu n'arrives pas à te lever et tout, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs peut-être qui vont nous jeter nous lancer des signaux comme ça que ça va vraiment pas bien?
Ouais, en fait, tu as trois dimensions au burn-out. La première, ce qu'on vient de dire, la fatigue extrême. Le deuxième, ça va être le cynisme. Donc, le cynisme, c'est quand c'est la deuxième dimension en fait du burn-out, et c'est là quand une personne elle va se détacher en fait de son travail, elle va se désengager dans la structure dans laquelle elle évolue. Elle va devenir un peu plus négative, plus dure avec les personnes qui l'entourent. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension du burn-out que tu vas remarquer, c'est qu'il y a une perte de l'accomplissement de soi, une dévalorisation de soi, l'impression de réussir en rien et un manque de confiance en soi. Donc ça, c'est les trois dimensions que tu peux retrouver chez les personnes qui sont en train de faire un burn-out.
Mais est-ce que les personnes, en général, ont tendance à dire « Ah, j'aime pas mon employeur » ou elles ont juste tendance à tomber dans ces indicateurs? Parce qu'en fait j'essaie de déterminer c'est quoi la nuance, parce que des fois on tombe tous dans la démotivation. En fait, on est tous une fois démotivés, même si on aime notre employeur, on aime notre travail, on aime ce qu'on fait, ça nous passionne, etc., mais on est juste fatigué, mettons pour une période de 2 semaines, ok, pendant une période de 2 semaines on veut pas se lever et on est juste fatigué, etc. Est-ce que ça c'est considéré comme un indicateur que c'est on s'en va vers un épuisement ou c'est juste temporaire, c'est juste du stress ou de la fatigue?
Moi je te dirais, pose-toi des questions. Enfin, déjà, attends, avant ça, les personnes qui sont en épuisement professionnel, c'est surtout les gens autour de toi qui vont te le dire. Toi, tu ne vas même pas le remarquer au départ. Tu vas juste te sentir un peu plus fatigué pour certains, mais tu ne le remarques pas. C'est les gens autour de toi, la plupart du temps, qui remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est les gens autour de toi, ce qu'ils vont faire, c'est de poser, ce qu'ils peuvent faire pour t'aider, c'est de poser des questions. OK, est-ce que tu te plains de manquer d'énergie pour accomplir ton travail? Est-ce que tu as des problèmes de concentration? Ça joue aussi. Est-ce que tu es devenu plus facilement irritable? Tu vois, c'est plein de choses. C'est pas qu'une seule chose où « Oh, attends, là, j'ai pas trop envie d'aller au travail ce matin. » Tu as plein de choses comme ça que tu peux poser comme question. Ça va être est-ce que tu dénigres beaucoup, enfin, par rapport à avant, est-ce que tu dénigres ton travail, ton environnement? Est-ce que tu dévalorises ton travail que tu es en train d'accomplir là? Tu vois, c'est toutes ces choses-là que tu peux te poser comme question pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Et puis, ce que l'entourage peut faire, ce que ton manager peut faire, c'est voir s'il y a un changement de comportement. Parce que des fois, c'est difficile à voir, surtout que là, on est tous à distance, et puis on entend de parler, justement, en étant à distance, il y a plein de personnes qui font, enfin, qui sont en épuisement professionnel, mais on ne voit pas les signes, on se dit, bah, attends, on a plus de mal à voir les signes parce qu'on est à distance. En réalité, tu peux les voir, ces signes-là, même si c'est des signaux qui sont faibles, en fait, mais tu peux quand même les voir. Mais pour les voir, faut que déjà que tu sois attentif à l'autre, et puis que tu puisses voir si son comportement, il a changé ou pas.
Ok.
Est-ce que ça répond à ta question ? Je sais que je parle en plein temps, c'est un sujet.
Bah oui, ça répond à ma question, ça cogite. Non, c'est juste dans ma tête, genre ça cogite. Et là, j'essaie vraiment de voir la nuance parce que je sais que les gens, que la plupart des gens qui sont fatigués, la plupart des gens passent par par des périodes de fatigue, de stress, etc., extrêmes et tout. Et j'essaie juste de savoir c'est quoi la différence entre un épuisement professionnel et une fatigue extrême.
Et je vais revenir juste sur un truc. Alors, on sort légèrement du sujet, mais pas vraiment, mais sur le stress. Juste parce que tu me parlais là du stress, s'il y a une chose à retenir aussi sur le stress, c'est que souvent, on voit le stress comme « Oh purée, c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bien, j'aime pas être stressée, etc. » Il y a une chose là, s'il fallait retenir une chose de tout ce qu'on dit là en ce moment toutes les deux, c'est le stress, c'est pas si grave que ça, c'est ni mauvais ni bien. Le stress, c'est juste une alerte, en fait, de votre corps, de ton corps, qui est en train de te dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas et tant que tu ne l'as pas réglé, moi, je vais t'envoyer des hormones de stress. » Et là, il va t'envoyer des hormones de stress et tant que tu ne règles pas les choses, et tu vas avoir plein d'hormones de stress qui vont arriver et c'est ça qui n'est pas bon. C'est quand ton stress, il devient chronique. Tant que ton stress n'est pas chronique, c'est juste, on va dire, c'est juste un stress aigu, tu sais, ça va. Ça veut dire que tu vas pouvoir affronter les choses. Mais si tu ne fais pas ça, c'est là où ça va devenir un stress chronique et c'est là où ce n'est pas bon pour toi. Donc, une chose à faire, quand vous sentez que vous êtes stressé ou quand tu sens que tu es stressé, essaye de trouver vraiment les solutions pour te déstresser. Bon, je sais que là, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils vont faire « Ouais, mais attends, c'est super compliqué peut-être de se déstresser ou des choses comme ça. Je vais trouver quoi comme solution ?» C'est vrai que là, je n'ai pas d'exemple. Donc, c'est un exemple. On peut essayer de le trouver ensemble.
Pour moi, tout simple. Moi, pour déstresser, franchement, j'ai tout un rituel.
Ouais.
Je pense que les morning routines, c'est super bien pour déstresser. Avoir une routine bien claire, c'est bien. Avoir une routine avant de dormir aussi, c'est bien. Mm-hmm. En fait, moi, en tout cas, les routines le matin, quand je me réveille, le fait de ne pas être on directement sur le travail. Tu sais, genre, le fait de se lever du lit comme ça et puis avoir plein d'idées dans la tête. Ah oui, la liste des tâches, je dois faire ça, les réunions, etc., etc. Au lieu de passer directement à ça, il faut vraiment se faire le vide dans sa tête. Après, chaque personne, comment est-ce qu'elle fait le vide ? Soit par le sport, soit par la méditation, soit par la pratique de la gratitude, il y a plusieurs pratiques, en fait. Donc, je pense que c'est un super bon point de parler de comment gérer le stress dans cet épisode, parce que voilà, c'est l'épuisement professionnel et c'est une façon de peut-être comme enlever le stress pour éviter le burn-out. Donc, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, comme je t'ai dit, un rituel de matin et un rituel le soir. Donc, voilà, le matin, comme j'ai dit, le journal de gratitude, c'est super important. Comme ça, en fait, on est toujours positionné sur ce qui va bien dans notre vie. Donc, ça diminue un stress énorme. J'utilise aussi la méthode de Wim Hof.
Je
crois qu'on a déjà parlé de ça sur LinkedIn, moi et toi.
La douche
par message, ouais, des trucs de douche froide, etc. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez aller et peut-être taper sur Google Wim Hof méthode, donc la méthode Wim Hof. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources en français aussi pour cette méthode. Mm-hmm. Donc, c'est une méthode qui est recherchée scientifiquement. Donc, c'est une technique de respiration profonde que Wim Hof, qui est l'initiateur de cette méthode, en fait, a prouvé scientifiquement avec d'autres universités aux États-Unis que ça réduit le stress dans le corps. Ils ont expliqué de façon physiologique qu'est-ce qui se passe, etc., quand on fait sa technique précise de respiration. Donc ça prend quand même pas 5 minutes le matin, entre 5 et 10 minutes. Donc c'est des respirations profondes de 30 fois, 30 fois x 4. C'est des respirations sans arrêt. Donc c'est respirer, inspirer pendant 30 fois, x 3 ou 4 fois, sans arrêt, qui va augmenter le taux d'oxygène dans le corps et qui va rendre le corps alcalin. Donc là, ce qu'ils ont démontré, c'est que ça diminue le stress. Et puis par la suite, pour compléter sa méthode, il faut faire une douche froide de 15 secondes après sa douche chaude. Et là, ça va vraiment booster son énergie, ça va vraiment diminuer pour le stress. Et là, ça a été et ce que j'aime dans cette technique, c'est que ça a été démontré scientifiquement et c'est médical. Donc, je suis pas genre le genre de personne qui suit des gens, des gourous, etc., qui parlent des choses ésotériques sur la respiration, etc. Mais ça, c'est scientifique.
Mais je vais regarder parce que je connaissais pas du tout cette méthode.
Oui, tu dois vraiment regarder.
Okay.
Oui, il y a même le livre de Wim Hof Method, okay. Et puis ça s'appelle le Iceman, parce qu'en fait Wim Hof c'est un homme qui peut rester et qui peut contrôler son corps dans le froid. Il fait comme des séances d'initiation à sa méthode, etc., en Netherlands. Donc c'est ça. Donc franchement ça c'est un sujet entre parenthèses pour les personnes qui seront intéressées. Donc ça c'est pour le rituel du matin. J'ai parlé un peu. Ça va diminuer genre le stress et je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes dans leur quotidien. Le soir, en fait, pour bien dormir et pour décrocher de son travail, pour un petit peu se détacher. Donc, après, ça dépend des gens et le rituel. Mais là, je donne moi personnellement ce que je fais. Mm-hmm. Pour dormir, je fais ce qu'on appelle le yin yoga. Donc, le yin, c'est l'énergie féminine en général, en fait, dans les pratiques tibétaines, etc. Et je ne sais pas si c'est bouddhiste ou pas, mais beaucoup plus dans les pratiques, disons, de l'Est. C'est ça, donc c'est une énergie calmante. Donc, faire des petits étirements de yoga. Vous pouvez taper le yin yoga, donc c'est le YIN yoga. Puis ça va relaxer le corps et ça va aider le corps pour
à s'endormir. Si je peux rajouter quelque chose après ça, le sport, ça aide aussi.
Oui, c'est ça. Et le sport, bien évidemment. Voilà. Le sport, faire un sport ou une activité de high intensity juste après le travail ou bien le matin. Après, chacun, comment est-ce qu'il veut s'arranger, peut-être à midi, à 7 heures. Ou le soir, le sport c'est super important. Donc moi c'est ça ce que je fais pour le stress, pour le
changement. Ouais, voilà. Alors je vais juste faire un petit attention à ça parce que oui, je suis complètement d'accord et puis c'est bien, tu sais, de se comprendre soi, de savoir quand est-ce que ça va pas, de savoir dire non, d'avoir ces signes-là corporels pour comprendre. Mais il y a autre chose aussi qui est important, c'est parce que on n'arrête pas de dire, et surtout en ce moment, j'arrête pas de lire énormément de choses comme ça sur LinkedIn, c'est apprenez à vous connaître, c'est vraiment super important pour votre santé mentale, pour votre santé physique et tout ça. Oui, sauf que t'as la partie individuelle, mais t'as aussi l'environnement qui joue énormément sur toi. Et moi, ce qui m'embête avec le fait de dire ça, alors je dis pas que c'est mauvais, hein, au contraire, aller faire du sport, c'est super important, trouver des choses pour pouvoir déstresser pour vous, c'est vraiment important. Mais ne mettez pas tout, c'est comme si en ce moment, tout était genre juste basé sur soi et sur l'individu.
Non, oui,
il y a l'environnement autour de soi qui est vraiment important et qui joue sur soi. Parce qu'à force de lire des trucs comme ça, de faire « Oh, si tu veux réussir, tout est comme basé que sur soi », non. Le problème, c'est que les gens, ils vont croire ça. Donc, ça se fait qu'ils vont s'en vouloir. Ils vont se démotiver, ils vont voir tout le monde. Mais pourquoi tous les autres, ils arrivent et pourquoi pas moi? Mais c'est juste que ce n'est pas le même environnement. Et on n'évolue pas tous dans le même environnement. Et l'environnement a un gros impact sur soi. Et ça, faut pas l'oublier non plus.
Parce qu'en fait, dernièrement, on voit beaucoup de personal development, puis les gens commencent à un petit peu en abuser. Ça commence à devenir un petit peu une diarrhée de personal development. Voilà, ça c'était direct. Je suis désolée pour les personnes qui nous écoutent. Des fois, quand il faut le dire, en fait, on le dit. Puis c'est vrai que voilà, ça commence à devenir un peu trop. Puis les gens commencent à trop se culpabiliser. C'est ça, c'est que tout est sur le moi. Je suis responsable de ma vie.
C'est exactement ça.
Tout ce qui se passe, je suis le seul et unique responsable. Ouais, c'est vrai que non, c'est pas tout à fait ça.
On n'entend pas assez souvent l'impact qu'a notre environnement autour sur nous aussi. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment important.
Ben écoute, on va revenir sur l'environnement de travail et le stress de l'environnement sur l'individu et la responsabilité de l'employeur dans tout ça.
L'employeur, donc oui, il a une responsabilité. Il a une responsabilité pour assurer la santé et la sécurité physique, mais aussi psychologique. Et ça, on l'oublie, on n'arrête pas de parler de sécurité dans l'environnement de travail, hein, mais aussi il y a aussi la santé dans l'environnement de travail. Et l'employeur, c'est légal, et il a un rôle à jouer là-dessus pour protéger ses salariés. Et un des premiers axes pour moi qui est vraiment super important, et d'après moi, chaque employeur devrait faire ça, c'est faire de la prévention. Ça va être de sensibiliser les travailleurs, en fait, afin qu'ils soient en capacité de détecter les éventuels signaux, tu sais, les signaux qu'on a parlé tout à l'heure, hein, des collègues ou de soi-même sur les choses qui ne vont pas. C'est faire connaître aussi que le burn-out, il ne dépend pas de la fragilité. Hein, attention, être en épuisement professionnel, ça ne veut pas dire qu'on est fragile, surtout si vous nous écoutez, enlevez ça de la tête. Hein. Faire un burn-out ne veut
pas dire qu'on est fragile, c'est vraiment super important. Hein. Et faire un burn-out, c'est pas non plus, c'est pas juste un surinvestissement individuel. C'est d'autres facteurs aussi. Hein. Le burn-out, c'est pas juste la surcharge de travail, hein. C'est aussi le manque de, bah, tout ce qu'on a dit là, je me répète un peu, hein, mais le manque de contrôle, l'absence de soutien social, tout ça amène. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment important au niveau de l'employeur de faire de la prévention et de faire comprendre ça à ses salariés aussi. Et puis aussi, bah, lever les tabous par rapport au burn-out. Donc,
ah oui, parlant de fausses croyances et de tabous, s'il te plaît. Ouais, 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 ça, c'est un super bon point.
Enlever les potentiels tabous. Mais on en a déjà évoqué quelques-uns, hein, notamment bah, le fait que les gens, ils croient que bah, c'est juste de leur faute. Non, hein, l'environnement, oui. Joue, c'est pas de votre faute.
Ça, c'est une fausse croyance.
Exactement,
ouais,
ça, c'est ça, ça en fait partie. Là.
T'avais posté quelque chose la dernière fois, et t'as dit que les fausses croyances, c'était que ça touche juste les femmes, par exemple.
Mais c'est ça, tu sais, ça revient au fait de dire les gens qui pensent que oh, ben, c'est que les femmes qui sont touchées par l'épuisement professionnel, ou c'est que des gens qui sont faibles. Alors, c'est le truc que je retrouve plus souvent au-delà des femmes, c'est des gens qui sont faibles mentalement. Si tu fais un burn-out, c'est parce que juste t'es faible mentalement. Mais c'est tellement faux. Et là, ça se voit pas à la caméra, mais ça m'irrisse. Oh, pardon, tu vois, ça m'irrisse tellement les voix que j'en mets partout. Mais non, c'est vraiment pas ça. Si vous faites un burn-out, si vous êtes en épuisement professionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation, c'est que vous avez dû faire face à un stress pendant longtemps, donc vous avez dû vous adapter à long terme, en fait, face à une situation qui n'était pas convenable.
Maintenant, question pour toi, ça prend combien de temps pour guérir d'un burn-out ? Quand on fait un vrai burn-out.
Hey, j'aimerais tellement te dire, oh, ça va prendre 3 mois et puis c'est bon, après, t'es tranquille. Mais non, je peux pas. Il n'y a rien, il n'y a aucune règle scientifique qui va dire dans 3 mois, t'es mieux ou dans 6 mois, t'es mieux, etc. C'est pas vrai. Tu sais pas, personne ne peut savoir. C'est juste le temps que tu as besoin pour pouvoir te reposer. Donc, tu fais un épuisement professionnel. Ce que je vais te dire, c'est repose-toi. Ça paraît tout bête, hein, mais l'épuisement professionnel, ben, tu as le mot épuisement, qu'est-ce que tu fais ? Tu te reposes. C'est ce qu'il faut faire le plus possible, là, c'est se reposer. Donc, c'est la première chose. Tu ne peux pas savoir combien de temps est-ce que ça va durer. Il y en a pour qui ça va durer 1 an. Il y en a d'autres, ça va durer 6 mois. Tu n'as pas de règles déjà définies là-dessus.
Bah écoute, c'est bien. Puis en fait, est-ce que tu as des conseils pour s'en sortir quand on est en burn-out ? Est-ce qu'il faut définitivement changer d'employeur, la première chose à faire ? Ou bien en fait, c'est quoi les conseils pour s'en sortir ?
Première chose, repos. Je sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est parce que c'est super important. C'est reposer. C'est vraiment la première chose. Repose-toi. La deuxième chose aussi, aller voir un spécialiste. Ça peut être aussi important de pouvoir aussi
comme toi,
en parler.
Est-ce qu'un spécialiste comme toi en prévention des risques psychosociaux,
alors,
est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour les individus
Je dirais d'abord aller voir un psychologue. Okay. Parce que moi, je suis là plutôt pour accompagner les entreprises avant que ça arrive. Moi, je suis là en prévention pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans ton organisation qui va faire que tes salariés, ils peuvent être en épuisement professionnel. Ça, c'est plutôt mon rôle. Par contre, pour quelqu'un qui est déjà en burn-out, je lui dirais plutôt, va voir un psychologue. Et je sais que certains coachs, et peut-être que là, je vais me faire détester s'il y a des coachs qui m'écoutent, alors je suis désolée, Radia, si t'as des...
Oh, pas de problème, vas-y. Vas-y, j'adore la polarisation.
Ok. Mais je sais qu'il y en a qui vont... Et pourtant, je suis coach moi-même, mais attention, ok. C'est juste parce que quand on fait un burn-out, d'abord, aller voir un spécialiste, aller voir un psychologue, aller pas voir un coach tout de suite, un coach qui est là plutôt après. Parce que je sais qu'il y a certains coachs qui sont là pour te dire « Eh, bah, t'as fait un épuisement professionnel, viens me voir. » Mais oui, mais t'es pas spécialiste de la santé mentale, tu vois. Et je dis « Mais faut se faire
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, mais je suis trop d'accord.
Ouais. Et je vais peut-être me faire détester, mais c'est pas grave. Je me dis, tu sais, la santé mentale, c'est précieux, c'est super important. Il faut pas jouer avec ça. Donc, vous êtes en épuisement professionnel, excuse-moi, reposez-vous, allez voir un spécialiste, puis ensuite, quand vous commencez à vous sentir mieux, à avoir un peu plus d'énergie, à avoir envie de faire des choses que vous faisiez avant, et ben là, oui, pourquoi pas, allez voir un coach, allez parler, ou voilà, faites des choses pour pouvoir après retourner au travail.
I agree with you.
Mais c'est parce que c'est super important et je vois que les coachs, ça pullule de partout, et puis j'ai rien contre les coachs, je suis coach moi-même, mais c'est juste que je veux juste faire. Enfin, je veux dire que c'est quand même qu'il faut faire attention là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, maintenant, je vais arrêter, parce que sinon, je vais pas attendre de répéter. On se repose, on va voir un psychologue, on se pose. Ensuite, quand ça va mieux,
On se pose des questions. Qu'est-ce qui a fait que j'étais en burn-out? Est-ce que c'est parce que les valeurs de l'organisation ne me convenaient plus? Est-ce que c'est parce que c'était, y avait une surcharge de travail? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait aucun soutien des collègues? Parce que le soutien des collègues, c'est super important. Toutes ces questions-là sont vraiment très importantes à y répondre. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, dites-vous qu'est-ce que vous avez envie de retrouver dans l'organisation? Qu'est-ce qui vous correspond? C'est quoi vos valeurs? Et le fait de répondre à toutes ces questions-là va vous permettre de vous dire, OK, en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais ben, me correspond, mais il y a ça, ça et ça qui n'allait pas. Je vais en parler à ma RH, à mon manager, à ma direction pour voir s'il y a des choses qui sont possibles à faire. Est-ce que eux, pendant que j'étais moi en épuisement professionnel, ben, ça a fait un déclic dans l'entreprise et ils ont changé? Est-ce qu'ils ont fait appel, par exemple, à Camille, donc à moi, pour dire, OK, on va faire des choses pour faire de la prévention, des choses comme ça? Ou est-ce que quand je vais revenir, ben, il n'y a rien qui a changé et dans ce cas-là, ben, je préfère partir ailleurs? Donc, tu as cette partie-là. Ou est-ce que ça a changé et puis c'est OK, je reviens dans l'organisation? Et pour certains, ce qu'on peut aussi beaucoup retrouver, c'est que tu as tellement été pas bien et tu as tellement pas aimé cette expérience-là dans l'entreprise, ça t'a mis dans un état d'épuisement tellement intense que tu t'es dit, bah, mon métier, je veux plus jamais faire ça et je veux faire autre chose. Donc ça, c'est autre chose. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui peut se passer.
En fait, ce que je dis pour ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que la plupart des gens, pour définir leurs valeurs, pour savoir exactement ce qui s'est mal passé, pour savoir exactement c'est quoi leurs faiblesses, leurs forces, etc., c'est là où je pense que c'est pas toutes les personnes qui vont pouvoir faire ça tout seul. Alors, si vous pouvez pas faire ça, bah, à ce moment-là, vous pouvez aller voir un career coach pour
démêler
tout ça, pour faire un plan de carrière, un plan de carrière genre solide, faire les tests professionnels qui sont payants, etc., qui vont pouvoir vraiment donner une visibilité qui est très claire et une clarté absolue sur votre chemin. Bah, écoute, tu m'as vraiment éclairée sur le sujet d'épuisement professionnel. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de nuances. Enfin, pour terminer, je ne sais pas s'il y a d'autres points que tu as envie d'ajouter ou...
Non, ben juste le dernier point, c'est si je ne sais pas s'il y a des RH qui nous écoutent, des managers ou des directeurs d'entreprise, vraiment faites de la prévention et faire de la prévention primaire, c'est la première des choses. Regardez dans votre organisation s'il y a trop d'exigences émotionnelles, s'il y a un manque d'autonomie, si les rapports sociaux sont dégradés, s'il y a des conflits de valeurs, s'il y a une insécurité dans le travail. Tous ces facteurs-là sont vraiment importants à analyser, donc pour pouvoir protéger la santé et la sécurité hein, de vos travailleurs. Regardez ces points-là, faites de la prévention, c'est super important. Et puis, on l'a vu encore plus aujourd'hui. Je dirais
ça. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Camille. Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est quoi ton dernier conseil pour les gens qui sont peut-être, qui vivent en ce moment un épuisement professionnel?
Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivée là? Je pense qu'une fois que vous êtes reposer, parce que ça, je sais que je l'ai trop répété dans ton podcast, là, reposez-vous, parce que c'est un élément important. Mais ensuite, posez-vous ces questions-là, ça vous permet de vous éclairer pour la suite. Toutes les questions qu'on a énumérées là, vraiment, posez-vous pour pas après être à même à faire un deuxième burn-out, parce qu'après un premier, tu peux aussi en faire un deuxième ou un troisième. Donc, le but, c'est pas d'arriver à continuer à faire trop de... Enfin, à aller tout le temps dans un état d'épuisement professionnel pour toujours, là. Enfin, mais vraiment de se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez envie? Où est-ce qu'elles sont vos valeurs? Et ces questions-là sont vraiment importantes. Donc, voilà.
Parfait. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, Camille, pour ta participation. Merci beaucoup.
Bah, merci à toi pour l'invitation.
Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles au podcast sur votre application d'écoute. C'est ce qui nous permettra de continuer à partager toutes ces informations et connaissances gratuitement avec vous. Je vous encourage aussi à me suivre sur LinkedIn, Radia, Abdi, et sur Instagram, @keeprad. Toutes ces informations sont disponibles en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.